Voix d'Église, une émission collaborative des radios protestantes FM+ à Montpellier, Fréquence protestante à Paris, Radio Grille Ouverte à Alès et Radio Alliance Plus à Nîmes.
Bonjour, bienvenue aux auditeurs de Voix d'Église. Bonjour aux animateurs. Donc, il y a Valérie pour Fréquence Protestante, Laurent pour Radio Grille Ouverte. Pour Radio Alliance Plus, il y a Redouane Esbanti. Moi-même pour la radio de Montpellier FM+. Donc, chacun pourra se présenter plus complètement. Laurent Keller, je l'ai dit, pour Radio Grille Ouverte. Oui, c'est bon. Et nous avons avec nous Nicolas Boutier, qui est rédacteur en chef du CEP. Et donc, on va commencer par lui donner la parole, pour s'il veut bien, pour nous dire quelles ont été les motivations pour choisir comme thème du dossier du CEP du mois de septembre, le thème « Les métamorphoses du travail ». Donc, à Nicolas.
Merci. Alors, en fait, on est parti d'un constat très simple. Nous sommes 7 rédacteurs au pool des rédacteurs pour la presse régionale protestante et nous avons 7 statuts différents de salariés à différents niveaux. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi en Église, c'était parfois compliqué d'harmoniser les postes de travail entre les pasteurs, entre les bénévoles, entre les salariés laïcs, je dirais. Et donc, nous avons décidé, en plus, dans notre société où on réfléchit sur la retraite, le temps de travail, tout ça, de se consacrer un dossier sur le travail pour réfléchir à la question et voir comment, avec un prisme, le prisme de notre Église, comment le travail était considéré ou développé.
D'accord. Qui veut rebondir sur ce que nous a dit Nicolas ? Donc, c'est Laurent, pour la radio d'Alès.
J'ai bien aimé la constitution du dossier. À chaque fois, les rédacteurs du pool sont attentifs à mettre des témoignages, à mettre des choses un peu techniques, et puis des choses un peu théoriques, ou en tout cas l'historien. Là. Donc j'ai bien aimé la variété des articles qui sont mis en place. Bon, c'est toujours très court, hein, mais voilà. J'ai bien aimé notamment dans l'article de Dominique Fabre sur Jean Calvin, et puis sur l'espèce de mantra qui dit que le protestantisme a inventé le capitalisme, de remettre un petit peu les idées en place aussi. Voilà, l'accumulation du capital, c'est venu avec la découverte aussi de l'Amérique, de l'or et de l'argent qui a été pillé là-bas. C'est aussi là que ça tout a commencé. Donc j'ai bien aimé la petite remarque qu'il y a eu là. Et puis, il y a une phrase que j'ai retenue là, sur les acteurs de la richesse. Oui, alors là, il faut avancer un peu dans l'article. Les acteurs de la richesse ont entendu avec ardeur, sinon rage, la reconnaissance de celle-ci, par Calvin donc, mais sont le plus souvent restés sourds à l'idée d'une juste redistribution, oubliant que Calvin condamne les passions d'argent et l'accaparement des biens matériels. Voilà. Bon, il y a des petites choses qui sont des petites remarques comme ça dans cet article que j'ai bien apprécié. En tout cas, pour remettre les choses en place. Et puis, je reviendrai après sur les circuits de distribution de l'argent, justement.
Bon, ben, moi, pour la radio de Montpellier, donc Cathy, donc moi, je vais dans ton sens. Ce qui m'a bien beaucoup frappé dans cet article donc, de Dominique Fabre, Jean Calvin de la justice en toutes choses, c'est quand il dit, par exemple, quand il cite la pensée de Calvin en disant « tout salaire injuste est un irrespect de Dieu », et moi, immédiatement, je pense aux 1,5 million de travailleurs pauvres dans notre pays, quoi. Sachant quand même que dans ces travailleurs pauvres, ce sont les travailleurs de l'agriculture, des travaux très, très importants pour la société, ou les aides à la personne. Quand on le met en rapport, ça fait un choc, quoi. De même que la citation « la rémunération du travail passe avant celle du capital », ça donne quand même à penser, sachant qu'il est déjà difficile de vivre avec un SMIG. Alors bien sûr, il n'est pas question de caricaturer, hein. On connaît tous des petits patrons ou des moyens patrons qui font vraiment le maximum et qui traitent leurs salariés avec respect. On pense surtout aux grands groupes dans ce cas-là. C'est-à-dire les grands groupes qui font de très gros bénéfices et qui licencient à tour de bras, par exemple. Et ça percute aussi le témoignage. Tu disais qu'il y avait des témoignages. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des articles de fond, des témoignages de la dame qui a 57 ans, elle ne retrouve pas de travail. Ben non, elle ne retrouve pas de travail parce que il y a des conventions collectives qui obligent à reprendre l'ancienneté d'un salarié. Donc, un patron qui ne pense qu'au profit, ce qui n'est pas le cas de tous, hein, je répète, et qui ne voit qu'à court terme, il ne prend pas un salarié qui a de l'ancienneté. Il prend un jeune qui lui coûtera 10 fois moins cher. Donc, on voit que tout est lié, en fait, dans ce monde du travail. Voilà. Qui d'autre ? Redouane ? Non, tu n'as rien à dire, Redouane ?
Oui, je suis resté un peu perplexe. Perplexe dans le sens où je ne savais pas comment... par où commencer à manger le dossier. Parfois, c'est tellement attirant. Mais ce qui m'a intéressé, c'est en fait toute la problématique aujourd'hui sur la question de l'âge. On est vraiment, c'est un sujet assez sensible dans la société française où le poids des retraités, le poids, et on le voit dans tout le débat, les crispations concernant l'âge de départ à la retraite, c'est une véritable question. Et cette question de l'âge, du travail des engagés au sein de nos églises représente un poids assez important. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas dit aussi le poids financier de tous ces retraités dans la participation de la vie de l'Église.
Oui, d'ailleurs, il y a un article qui le pointe. Hein. Nicolas, tu veux répondre ? Non ?
Oui, oui, je peux, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'âge du tout dans le dossier. On a parlé du bénévolat et des questions que peut poser le bénévolat, à la fois en temps de travail et donc en poids financier, mais en poids financier positif pour l'Église. Et on n'a pas abordé la question de l'âge. C'est vrai que ce n'est pas apparu, en dehors de cette dame qui témoigne, de nos bénévoles qui sont souvent retraités, donc âgés, à qui on demande beaucoup d'énergie et qui en ont peut-être un peu moins, ou qui en ont encore beaucoup. Et donc, c'est vrai que cette question n'a pas été abordée, mais on nous a fait aussi la réflexion, par exemple, on ne parle pas du burn-out. Enfin, il est abordé, mais on n'a pas vraiment un article sur le burn-out et les conséquences. Notre Église n'échappe pas à cette maladie, j'allais dire, je ne sais pas si on peut employer ce terme, tout comme dans le monde du travail. Donc, voilà, bon, c'est vrai qu'on a peu de pages. C'est déjà beaucoup de pages, mais on manque toujours un peu pour aller un peu plus loin.
Mais voilà, c'est ce que je trouve d'intéressant dans la presse régionale, c'est d'amorcer un lieu de réflexion, parce que toutes les réponses ne sont pas là. Mais en fait, ce qui me, la chose à laquelle je suis sensible, c'est l'expression qu'a utilisée l'ex-premier ministre en critiquant les boomers, comme les boomers profitant un petit peu de la manne, etc., comme si les boomers n'ont pas participé d'abord à la richesse du pays, quoi, et ne font que tirer les profits, les marrons du feu. Je trouvais ça un peu fort de café, d'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce troisième âge pèse économiquement dans les activités du bénévolat, même financièrement dans la vie de nos églises, dans les solidarités intergénérationnelles, parce qu'ils aident les enfants, les petits-enfants. Voilà. Et il y a tout un process économique qui n'est pas négligeable. Et on a le sentiment qu'on ne fait que peser et que justement, c'était la réflexion aussi de Calvin, c'est-à-dire que Calvin essayait d'amorcer une société solidaire où chacun donne selon ses capacités, comme nous dit le Nouveau Testament. Déjà dans le Nouveau Testament, on a cette idée-là. L'égalité, ce n'est pas donner de la même manière, mais donner selon ses capacités.
C'est l'équité.
C'est l'équité. Tout à fait.
Je voulais dire que moi aussi, enfin, Redouane a un petit peu repris ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu facile toujours de critiquer les uns les autres par catégorie. Alors nous, on serait les gentils, puis les autres, ils ne sont pas gentils. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est bien, puis les autres, c'est pas bien. Les grands patrons, ils ne sont pas gentils. Enfin bref, tout ça, je crois qu'il faut savoir raison garder et puis surtout bien faire attention à pas trop stigmatiser des catégories. Déjà, à pas faire trop de catégories, puis ensuite, à pas trop les stigmatiser. Parce que le monde du travail, enfin bon, moi, je le vois par les responsabilités que je peux avoir par ailleurs dans le pôle social de notre syndicat professionnel et puis bientôt au Conseil des Prud'hommes. Le monde du travail est extrêmement complexe. Il fait appel à un certain nombre de choses qui relèvent de l'éthique. Et c'est là que les protestants ont quelque chose à dire. C'est curieux, mais il n'y a pas très longtemps, je remettais le nez dans Éthique protestante et esprit du capitaliste et je me rendais compte que ce texte n'avait pas vraiment vieilli. Dans cette éthique, eh bien, il y a le recours au bénévolat, notamment, et ce bénévolat qui revêt aujourd'hui des formes différentes, avec le mécénat de compétences et les situations comme ça. Tout ça, ça fait avancer la société, ça fait une société multiple, variée, dans laquelle chacun peut trouver sa valorisation. Et je trouve que ce dossier, il a cette capacité à balayer un petit peu tout, mais je crois qu'il ne faut pas trop s'enfoncer dans la stigmatisation ou la glorification des uns ou des autres, mais vraiment rester très rationnel. C'est vrai que pour reprendre ce que disait Nicolas, la solidarité, c'est aussi quelque chose d'important. On se remet à parler au moment des 100 ans de la mort de Léon Bourgeois, de solidarisme, etc. Et ça, c'est vraiment… Je pense qu'il y a des courants de pensée liés au travail qui sont en train d'émerger et que c'est intéressant de les écouter.
Donc, Redouane a demandé la parole.
Oui, parce que, comme je disais, le dossier, je ne savais pas par où le manger. Il y avait la question de l'âge. Mais le premier article concernant les nouvelles générations et les nouvelles attentes. Vraiment, merci parce que ça amorce quelque chose que j'avais déjà en tête et qui me pose beaucoup, beaucoup de questions, qui est la problématique. Pendant très longtemps, j'allais assez souvent en Hollande et chez les amis chez qui j'étais, toutes générations confondues, on ne prenait jamais le café avant d'avoir fait la vaisselle. C'est-à-dire, c'est cette éthique protestante que l'effort doit être récompensé. Et l'effort, ce n'est pas une servitude, ce n'est pas un poids, mais c'est une manière de participer à la cohésion et ne pas laisser le chaos envahir la vie quotidienne. Et je trouve que, effectivement, depuis le Covid, dans la nouvelle génération et dans certaines autres générations, c'est moi d'abord, avant l'intérêt général. D'abord, quel est mon confort ? Et on le trouve à la fois chez les jeunes médecins, on le trouve à la fois chez les jeunes éducateurs, j'habite juste à côté d'un institut de formation des éducateurs, et on retrouve les mêmes problématiques. C'est-à-dire, il y en a un cas, et même chez les pasteurs, hein, maintenant ils font les 35 heures, certains, et ils ne vont pas au-delà. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'interroge dans les nouvelles attentes.
Oui, alors un peu pour rebondir, on a un article d'un jeune homme, Titouan Daudet, je crois, qui parle du sens, de la nécessité pour lui d'avoir… Non, c'est pas cet article-là. L'article sur le sens, c'est l'article de la dame qui s'appelle, excusez-moi, je me suis trompée, Nicole Roulant-Rupp, voilà. Et alors, je me faisais la remarque que dans les métiers qui ont beaucoup de sens, comme infirmière, enseignant, il peut y avoir une très grande souffrance au travail, parce que ça, il n'y a pas de souci, le sens, on l'a, la mission, on l'a, mais les conditions de travail sont telles qu'on ne peut pas remplir nos missions. Donc, on se retrouve en échec et en culpabilité, parce que l'institution nous demande de remplir nos missions, évidemment, par exemple pour nos 28 élèves, mais ne nous donne pas les moyens de fonctionner quand on est instit. Moi, je suis instit à la retraite, alors vous voyez de quoi je parle. Parce qu'on peut avoir pendant 3 cas de comportement très grave dans la classe, sans personne pour s'occuper de ces enfants-là. Donc, c'est la maîtresse qui le fait. Donc, pendant qu'elle s'occupe de ces enfants-là imparfaitement, parce qu'elle n'est pas vraiment qualifiée pour, elle ne s'occupe pas de tous les autres, vous voyez, par exemple. Bon, puis on connaît bien le cas des infirmières. Donc, c'est vrai que la souffrance au travail, ça peut être le manque de sens, comme nous l'a fait remarquer Madame Nicolas Rupp, là. Mais ça peut être aussi un travail qui a beaucoup de sens, mais on ne peut pas remplir nos missions faute de, comment dire, de moyens, de conditions du travail adaptées pour pouvoir remplir nos missions. Et là, ce n'est pas les méchants patrons. Là, c'est le service public qui met les gens dans ces situations, que ce soit à l'hôpital ou dans l'école. Voilà, je m'étais fait cette réflexion-là aussi. Oui, Nicolas ?
Je voulais revenir sur ce que tu disais, Redouane. Je trouve intéressant parce que par rapport à l'individualisme qui est en train de grignoter lentement notre société, en particulier depuis le Covid, c'est un problème qui se retrouve dans le bénévolat. De moins en moins de gens veulent donner de leur temps ou trouvent le temps de donner de leur temps, aussi bien en église que dans les associations extérieures. Ça va jusqu'au club de foot ou au club de rugby, où il y a moins en moins de gens qui s'engagent. C'est ce qu'on a voulu aussi un peu pointer, c'est que comme il y a moins de monde pour remplacer, certains bénévoles deviennent ou se rendent indispensables et on sclérose parfois le fonctionnement. Et c'est aujourd'hui comment réfléchir à ce bénévolat, alors pas le professionnaliser, mais pourquoi, comme un salarié, il n'y aurait pas des niveaux de vérification, de réflexion autour de ça pour savoir si la personne engagée depuis 30 ans est toujours au niveau pour pouvoir continuer son engagement. Alors, c'est très difficile, comment on peut estimer ça. Mais voilà, c'est une réflexion qui nous était venue en tête dans l'élaboration du dossier.
Sur la question du bénévolat, oui, c'est très intéressant parce que vous y revenez beaucoup dans ces articles. Et effectivement, la question du bénévolat qui est régie en France par la loi de 1901, notamment, la situation, elle est... Et la loi de 1901, pour la bouger, ça va être difficile aujourd'hui. Je pense que personne ne va s'y atteler, d'ailleurs. En tout cas, sérieusement. Mais elle est aussi articulée au monde du travail. Parce que pourquoi est-ce qu'on a accepté que les bénévoles ne soient pas du tout rémunérés ? J'ai la caméra qui se bouge un peu. Mais parce que dans ce monde 1901, la situation des travailleurs, elle était un peu fixe, elle était un peu... la rémunération, ils l'avaient par le travail. C'est plus du tout la situation d'aujourd'hui, ça. C'est pas ma situation, en tout cas. Moi, je suis un intermittent du travail, et le sens, je le trouve pas au travail non plus. Je le trouve dans la bénévolat. C'est vrai que je vois des bénévoles dans les radios, ça nous concerne aussi dans les radios, je vois des bénévoles qui se disent « mais bon sang, j'apporte de la valeur culturelle, je fais des recherches, je viens faire des choses, c'est pas rémunéré ». Et ils se posent la question.
Mais justement, dans les radios par exemple, on essaye de stimuler les bénévolats avec une carotte qui est « vous pouvez tirer bénéfice de votre bénévolat en valorisant le travail, les productions radiophoniques que vous faites auprès de la SACEM, auprès… voilà ». C'est une manière de participer, ça ne rapporte pas beaucoup parce que tout dépend du producteur, certains producteurs, ça rapporte énormément.
Pardon, Valérie. Vas-y, Valérie.
Dans une radio associative, c'est très difficile, compte tenu de nos contraintes horaires, etc., d'avoir des salariés. Nous, on a un salarié supplémentaire maintenant, mais je me rends compte à quel point c'est difficile. En revanche, on peut les rémunérer, les bénévoles. On peut les rémunérer via la SCAM. Moi, j'encourage toujours les bénévoles à s'inscrire à la SCAM parce que c'est quand même une société dont le système est globalement mutualiste. Et qui permet d'être rémunéré pour ce que l'on fait. Mais il y a des leviers qui sont un peu différents. Moi, j'ai des gens qui viennent ici, qui font des émissions et qui l'utilisent après pour leur pratique professionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une attachée de presse qui vient faire une fois par semaine une émission sur la bande dessinée, elle met un lien sur son site internet et derrière, c'est un gage de sérieux, c'est un gage de compétence, c'est un gage d'esprit critique, etc. Chez nous, on arrive à 300 000 auditeurs uniques pour une émission qui s'appelle Sur les traces de Jung, 350 000 même d'ailleurs. C'est cette émission qui est faite par une animatrice. elle se retrouve évidemment sur les plateformes, mais également sur le site internet de cette animatrice. Et c'est ça qui fait que ben, elle est connue. Plus elle est connue, plus elle attire d'auditeurs. Plus elle attire d'auditeurs, et ben, mieux ça marche. Donc, il y a aussi un peu ce système-là qui est lié à la radio associative. Ça, c'est sûr.
On prend Nicolas comme dernière intervention, parce que l'heure avance.
Je ne sais pas si c'est une dernière intervention, mais pour revenir à ça, il y a des associations qui commencent à évaluer dans leur budget le poids des bénévoles, en fait. Qu'est-ce que leur a rapporté les bénévoles ou qu'est-ce qu'ils ont économisé grâce aux bénévoles? Et ça, je trouve que c'est très important, parce que c'est une reconnaissance en disant, ben, voilà, grâce à vous, ben, on a économisé, ça nous a rapporté, on n'a plus... Et il y a une vraie reconnaissance à ce niveau-là. Je suis pas sûr que tous les bénévoles attendent de l'argent dans leur porte-monnaie, mais de savoir en quoi leur engagement et leur travail rapportent, en fait. Alors, c'est pas le but de rapporter pour rapporter, mais c'est, voilà, c'est un engagement qui vaut, en fait, qui vaut quelque chose, qui a du poids.
D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un rescrit fiscal aujourd'hui qui va nous contraindre à valoriser le travail des bénévoles. Nous, on en a 140, donc ça représente quand même quelque chose. Et donc, je crois que j'ai entendu parler de ça au dernier conseil d'administration de la radio. Voilà, on va être obligé de valoriser. Et quelque part, intellectuellement, c'est satisfaisant.
Voilà, juste un petit mot pour dire que le dossier de juin sur les nouveaux protestants change-t-il l'Église? Les nouveaux venus change-t-il le mode économique? Je trouve que c'est très intéressant, c'est-à-dire il y a un tournant générationnel, il y a un tournant au niveau du sens, et merci à la presse protestante d'amorcer ces réflexions pour l'espace de l'Église dans lequel nous sommes.
Bien, donc merci à tous les animateurs et merci aux auditeurs. Et rendez-vous pour un nouvel échange, nouveau débat sur le prochain dossier du CEP du mois d'octobre. Mmh. Au revoir, à bientôt.
Voix d'Église, une émission collaborative des radios protestantes FM+ à Montpellier, Fréquence protestante à Paris, Radio Grille ouverte à Alès et Radio Alliance Plus à Nîmes.